Radio G.
Je suis heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui d'une actualité culturelle. Comme chaque année, et malgré tout, et notamment malgré la fermeture des salles de cinéma, nous aurons le plaisir de retrouver le festival Premier Plan à partir de lundi, le 25 janvier, c'est la semaine prochaine. Et pour en parler, nous recevons Véronique Chara. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Tu t'occupes de l'action culturelle et de la communication au sein du festival. Et nous sommes aussi avec Arnaud Gourmelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es responsable de la programmation et tu t'occupes de coordonner l'équipe qui sélectionne les films. C'est bien ça ?
Tout à fait, c'est ça.
Alors, Premier Plan, c'est un festival qui est très apprécié par les Angevins, les Angevines, on en parle souvent. Les compétitions, on le sait, sont ouvertes au premier film, c'est ça l'identité, et au premier film européen, qu'il soit long, court, animé. Mais il y a aussi, bien sûr, chaque année, des rétrospectives pour nous permettre de plonger au cœur du patrimoine cinématographique. Alors, le contexte, il est pas du tout comme d'habitude, assez complexe, avec les salles de cinéma fermées. Mais vous avez quand même fait en sorte que le festival existe à nouveau cette année. Comment on va pouvoir accéder au film dans ce contexte en tant que spectateur et spectatrice? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça?
C'est vrai que ça n'a pas été une année simple, ça on le sait, pour le monde de la culture. Ça n'a pas été simple pour nous, évidemment, de mettre en place ce festival. Depuis le mois de septembre, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a des choses qu'on avait anticipées, d'autres non. Et c'est vrai que, par exemple, notamment pour la partie des rétrospectives, on avait décidé de s'associer depuis le mois de septembre avec un site internet qui s'appelle La Cinéthèque, qui est un site créé en gros pour que les cinéastes parlent des autres cinéastes. Et on avait déjà fait une opération l'an dernier avec eux, qui avait été très chouette, avec Olivier Assayas. Et on s'est dit, tiens, cette année, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et l'idée, c'était au départ, évidemment, de faire de la programmation en salle et puis, parallèlement, pouvoir exposer les films de Premier Plan d'Angers dans toute la France et de les rendre accessibles. Évidemment, en arrière-pensée, on savait très bien que c'était aussi une espèce de backup. Mais l'idée, c'était vraiment à la base de pouvoir le faire de manière. On a dû réfléchir, on a dû penser. Ensuite, on a su que les salles allaient peut-être être restées fermées, on a essayé aussi de déplacer cette rétrospective aussi au Forum des Images à Paris. C'était mis en place et puis finalement, c'est totalement, pour l'instant, reporté. Mais on ne désespère pas. Je pense qu'on arrivera à montrer les films des rétrospectives au cours de l'année en salle sur grand écran.
Parce que c'est vrai qu'il faut imaginer que le festival, vous le préparez des mois à l'avance et que là, tous ces changements, bouleversements, passages en ligne, en fait, ça a dû se faire dans les dernières semaines, très rapidement.
Ça s'est fait, on a l'impression d'avoir préparé ce festival un peu trois fois, là, j'avoue, et d'en changer les modalités, mais en tout cas, on n'a jamais renoncé, quoi. Il y a toujours eu cette volonté, on se disait c'est trop bête, on en a après tout ce travail, on va quand même pas s'arrêter là. Et puis ça réagissait bien, on voyait bien, notamment parmi les rétrospectives, on avait préparé une rétrospective consacrée à Federico Fellini, une autre à Christian Petzold, qui est un cinéaste allemand majeur, de ces dernières années, qui est toujours en activité, hein. Et puis un hommage aussi très important à Chantal Akerman, qui est une cinéaste belge, malheureusement trop tôt disparu, qui est une cinéaste, je me rendais compte ces dernières années, dont se revendiquent beaucoup de jeunes cinéastes et beaucoup de jeunes cinéphiles. C'est-à-dire, c'est une figure qui a marqué beaucoup, et un cinéma indépendant, un cinéma très libre, un cinéma extrêmement personnel. Et on sait autre chose qui est propre aussi à l'œuvre d'Akerman, c'est qu'elle est totalement indisponible en DVD. Et c'est une œuvre extrêmement rare, en fait, aujourd'hui. Et on a pu, je remercie vraiment la Cinémathèque et la Fondation Akerman de Bruxelles d'avoir rendu ça possible, de nous permettre, à la Cinéthèque et au Festival Premier Plan, d'avoir accès aux films de Chantal Akerman dans des versions restaurées. C'est-à-dire que là, moi, je vois circuler sur le dark web, on va dire, des copies souvent assez très mauvaise de ces films, et c'est assez navrant. Et tous ces films ont été restaurés par la Cinémathèque de Bruxelles, et là on va pouvoir avoir accès, notamment sur le site de la Cinéthèque, donc j'en fais la pub, à partir de lundi prochain, avoir accès une dizaine de films de Chantal Akerman, et on a créé aussi un espace spécial Festival Premier Plan qui donnera accès aux spectateurs à 12 films de la rétrospective, 12 films de la des programmations pendant un mois, c'est-à-dire du 25 janvier au 24 février pour une somme assez dérisoire de 7 euros, mais c'est pas la question. Mais bon, je veux dire, c'est vraiment pour pouvoir accéder à ces films-là. C'est une opportunité assez unique, voilà. Et même si on maintient qu'on fera exister aussi cet événement en salle plus tard.
Ouais. Donc c'est en fait, on découvre un festival en plusieurs temps. Donc là, à partir de lundi, on a une ouverture en ligne du 25 au 30. Donc la semaine prochaine, c'est on pourra découvrir la sélection qui est en compétition. Et puis, à partir de lundi et tout le mois, là, comme on le disait, les rétrospectives par rapport aux à la sélection, c'est intéressant aussi parce que ça reprend vraiment le principe des salles de cinéma avec des séances qui sont en ligne et gratuites pour le coup, mais qui sont à heure fixe. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude, en tout cas pour le moment, d'avoir rendez-vous avec un film à une heure précise en étant chez soi et on est plusieurs à le regarder en même temps. Là-dessus, c'est un partenariat avec la 25e heure.
Ouais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, les gens qui voient, les gens consomment aujourd'hui, le public, beaucoup de films hein, sur Internet et généralement, que ce soit sur les plateformes, quelles qu'elles soient, on choisit généralement l'heure à laquelle on voit un film. Nous, on avait quand même envie de garder aussi le côté un peu événementiel, c'est-à-dire d'éditorialiser le festival et de proposer un rendez-vous qui soit quotidien. Donc l'idée s'est faite avec ce site donc, qui s'appelle La 25e Heure. C'est eux à la base hein, qui avaient créé cette idée de la salle virtuelle, donc avec justement l'idée de être un peu comme au cinéma, avec une heure fixe, un horaire de séance, et puis et la possibilité de faire des débats à l'issue. Mmh. Et donc ça nous a séduit en fait d'inscrire la sélection et la programmation de Premier Plan dans ce cadre-là, c'est-à-dire de garder nos dates, c'est-à-dire du 25 au 31 janvier. Et tous les soirs à 18h et 20h30, en gros, on va présenter, non pas la totalité, puisque Festival Premier Plan, c'est à peu près 250 séances en 10 jours. Là, ce sera une douzaine de séances, enfin 12 séances même pour être précis, durant lesquelles on va pouvoir présenter la quasi-totalité de la sélection des longs métrages. Je remercie aussi tous les distributeurs, producteurs qui ont accepté de jouer le jeu. Et puis on a une sélection de courts-métrages. Voilà, ça paraît peu par rapport à tout ce qu'on offre d'habitude. Et en même temps, je trouve ça déjà super de pouvoir partager ces moments. D'autant que chaque séance sera accompagnée d'une rencontre avec les réalisateurs qui aussi jouent le jeu et seront là chez eux, hein, que ce soit à Moscou, à Athènes, à Bucarest, de chez eux, ils pourront dialoguer avec nous et avec le public.
Ouais, c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression que c'est un mélange en fait en regardant cette édition de Premier Plan entre la frustration de pas pouvoir retrouver le festival et l'émulation et les rencontres telles qu'on les connaît habituellement, et en même temps c'est intéressant de voir ces nouvelles façons de diffuser le cinéma. On a d'un côté la VOD avec la Cinéthèque qui en plus fonctionne autour de films très importants du 20e recommandés par des réalisateurs, et puis la 25e heure qui travaille avec des salles pour reprendre vraiment le fonctionnement d'une salle avec un rendez-vous, on est ensemble au même moment, on sait qu'on est peut-être 400 devant un film derrière son écran mais quelque part ensemble. Enfin, c'est deux partenariats très différents mais qui ouvrent aussi des possibilités.
Oui, ben, après nous on espère retrouver la salle assez vite. Hein.
Oui, moi aussi, je vous rassure.
Mais c'est vrai que là en l'occurrence ça nous offre une opportunité un peu idéal pour quand même montrer ces films-là qui ont besoin d'exister, parce que c'est quand même ce sont des films on va dire relativement fragiles hein. La plupart n'ont même pas de distributeurs, il y a plus de salles et plus de festivals pour les montrer, c'est des films qui vont être vite enterrés, et c'est dommage parce qu'il y a dans ce cinéma européen il y a un éclectisme et une offre de films qui est très très riche et surtout qui est jamais formaté. Donc quand je regarde un peu l'étendue de la sélection, je me dis voilà, c'est vraiment quelque chose d'anti-format. On vient et on va découvrir des films, des documentaires, des essais, des fictions qui qui répondent pas à un cahier des charges précis et qui sont des films, je pense, très personnels, comme toujours les premiers films, et très singuliers en tout cas. Mmh.
Oui, c'est vrai que c'est le début de souvent des carrières qu'on retrouve au festival. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la programmation de cette année, peut-être de la sélection? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce que toi tu as des coups de cœur? Plonger un petit peu au cœur de ces films qu'on va pouvoir voir.
Moi, sur les coups de cœur, j'ai toujours un peu de mal, parce que bah étant responsable de la programmation, ça m'embête toujours un peu d'orienter.
Je savais c'est que c'était une question piège.
en tout cas, il s'est passé une chose. C'est, par exemple, l'an dernier, on avait créé une section qu'on avait intitulée Diagonale. L'idée était qu'était à côté, on va dire, des films plus classique de fiction, il y avait une richesse dans le cinéma européen de gens qui œuvrent, voilà, dans des écritures plus radicales, qu'elles soient visuelles ou narratives, que ce soit dans l'essai ou le documentaire. On s'est dit c'est dommage, on trouvait qu'on avait manqué un peu de place pour montrer ces films-là, et cette section nous permettait de le faire, et ça, le public a très bien réagi. Et cette année, le fait que on soit contraint à réduire la programmation dès le mois de novembre, on commençait à comprendre que de toute façon on pourrait vraiment pas montrer autant de films, et du coup on a dû commencer à faire des coupes et à décider qu'on ne pourrait pas montrer autant de films. Et c'est vrai qu'on s'est dit tout de suite on ne peut pas faire à la fois la compétition premier plan plus la compétition diagonale plus la... Et je pense que la sélection, par exemple, des longs métrages, on a décidé aussi finalement d'y mêler un peu ces deux catégories. Donc je pense que c'est justement cette année une section un peu plus laboratoire peut-être que d'habitude, où vraiment les documentaires côtoient des fictions et des films de recherche. Il y a des films comme ça, hein, qui sont comme Le Kiosque, sous influence d'Alain Cavalier. Il y a des films qui se passent dans le Donbass, avec un documentaire en Ukraine qui est extrêmement lumineux et touchant. On a des films de fiction qui se passent au fin fond de la Russie, de la Sibérie, face à l'Alaska, ou d'autres à Istanbul qui racontent la société moderne. C'est toujours, je pense que quand on fait la sélection, il y a quelque chose, il y a tellement de types de propositions que quelque part on a envie de restituer aussi au public, je pense, cette diversité. Comme des couleurs, comme ça. C'est un mélange de couleurs, et on a envie de partager ça c'est une large palette, et on n'a pas envie de formater le festival justement sur une seule couleur de programmation. Donc,
Et donc la compétition, elle est maintenue. Comment ça va se passer concrètement pour le jury, pour le visionnage des films, pour les délibérations?
Après, je vais te laisser la parole, hein, Véronique.
Non, vas-y, continue. J'apprécie de t'écouter.
Simplement, ça va se passer un peu comme la vie de tout le monde actuellement. C'est-à-dire, ça va se passer en ligne et ça va se passer sur visioconférence. C'est un peu dommage, mais pareil, c'est vrai qu'on a quand même, on a réussi à maintenir, il y a quand même 4 jurys, hein, cette année. Le jury des longs métrages européens, ils voient les films en ligne, et ils doivent se réunir la semaine prochaine. Je sais plus exactement à quelle date, mais on a vu que les visioconférences, les Zoom et autres, tous ces logiciels qui sont assez performants aujourd'hui, permettent quand même une bonne écoute et un bon dialogue. Et puis il y a d'autres jurys, ça va être par exemple le jury des films d'école. C'est drôle, parce qu'il y aura des gens, il y a une personne qui est à Montréal, une autre à Helsinki, une autre à Paris. Du coup, ça va faire des rencontres avec les juges qui vont jongler avec les fuseaux horaires. Et tout ça, c'est vrai que ça va se passer en ligne.
Mais ils ont un seul visionnage, ils peuvent regarder le film autant qu'ils veulent. Enfin, est-ce qu'il y a des modalités là-dessus, je me demandais?
En gros, non, ils ont accès au fichier, s'ils veulent ils peuvent le voir plusieurs fois.
Ouais.
Généralement.
C'est pas très grave.
moi, ça peut m'arriver, hein, de revoir un film, parce que j'estime que j'étais, je sais pas si mon téléphone sonne 3 fois pendant un film, il m'arrive de recommencer. C'est sûr, là, je peux pas être derrière eux pour contrôler qu'ils le voient dans les meilleures conditions, mais ce sont tous des professionnels, donc c'est quand même des gens qui je regarde les films attentivement.
Ouais. Et premier plan, habituellement, ce sont aussi des moments d'échange, de rencontre. Je pense à tous les temps dédiés aux professionnels. Il y a les lectures de scénarii. Il y a aussi toutes les séances qui s'adressent aux scolaires. Enfin, il y a énormément de choses qui sont un peu plus souterraines, entre guillemets, ou en tout cas auxquelles on pense pas tout de suite. Véronique, comment ça se passe pour ces événements-là?
Pour la partie professionnelle, on va aussi donner un accès aux professionnels pour qu'ils voient l'ensemble de la sélection officielle sur une plateforme de manière pro. Donc ils auront aussi la possibilité de faire des repérages en restant chez eux. On a eu une autre approche après pour les scolaires et le jeune public. On est resté dans l'idée qu'on souhaitait leur montrer nos films en salle. Donc il s'est passé deux choses. Dans le cadre des thématiques, des rétrospectives, il y en a une qui s'appelle l'évasion. Et elle est construite en particulier avec un comité de pédagogique d'enseignants qui, aux côtés d'Arnaud, participe à l'élaboration de cette programmation. Et en fait, elle était toute prête. Elle est toute prête et on s'est dit que ça n'avait aucun sens de la montrer en ligne pour des élèves. Du coup, on la garde pour l'année prochaine. Donc voilà, l'année prochaine, les élèves et les enseignants pourront revenir au festival autour de cette thématique et des nouvelles qui vont être construites avec Arnaud. Et puis, on avait aussi développé une sélection officielle de courts-métrages européens pour le jeune public. Ça s'appelle les chenapans.
C'est ça, voilà. Y a un petit jeu de mots.
Oui. Voilà. Cette sélection des chenapans, on a souhaité la mettre au chaud et la garder jusqu'au mois de mai. Et donc, fin mai, les 400 coups et le pâté, Gaumont, vont nous réouvrir leurs portes pour peu que ça ait ouvert. Et on est en train de reporter toutes les séances scolaires de la semaine sur cette semaine de mai. Et puis, on aura un temps fort pour les familles le dimanche. Et toutes ces séances, en fait, ont un point commun, c'est que ce sera la seule séance où c'est les spectateurs qui pourront voter, et les plus jeunes spectateurs. Ce sera la parole aux jeunes spectateurs, et les prix seront dotés par une plateforme encore, une plateforme jeune public, dédiée au cinéma jeunesse d'auteur, qui s'appelle Benchy. Voilà, donc on a réussi à transporter cette partie du festival.
Ouais. Et là, c'est des films pour les 3, 6 et 9 ans, je crois.
Voilà, on a 3 programmes selon les tranches d'âge.
Ça me réjouit d'imaginer tous ces petits-enfants être jury pour la dotation du film.
Exactement, ouais. Surtout qu'on développe avec l'Éducation nationale une démarche sur comment amener les élèves, et du coup, on donne des petites fiches pédagogiques aux enseignants sur comment amener les enfants à exprimer leur point de vue. Donc tout ça, on se le garde au chaud pour plus tard.
Ouais, plein de choses à arriver qui s'écrivent un peu au jour le jour.
Oui, bah, de la même façon, mais là Arnaud, tu pourrais en reparler, mais on souhaite pouvoir inviter Christian Petzold à présenter ses films, mais ce sera plus tard, et pas daté, du coup. Là, on ne sait plus, ça reviendra plus tard. Donc voilà, et puis l'idée c'est de clôturer cette drôle d'édition à la fin du mois d'août, puisque premier plan, un second temps fort, peut-être repérer des Angevins, c'est les ateliers d'Angers. C'est un temps fort qui est plus basé sur le principe d'un workshop qui à l'origine avait été lancé avec Jeanne Moreau, et qui depuis 15 ans accueille chaque année des jeunes réalisateurs qui viennent écrire leur scénario de premier long métrage, passer un petit temps pour travailler sur leur scénario. Et puis, autour de cette résidence d'écriture, on a maintenant beaucoup de propositions. Arnaud programme donc des films en avant-première. On propose des stages pratiques pour découvrir le cinéma de manière un peu ludique. Et donc, la résidence d'écriture serait reportée au Festival 2022. Mais tous ces temps grand public nous permettraient de clôturer en beauté le festival, avec également les lectures de scénarios dont on n'a pas reparlé.
Ouais.
Les scénarios ont été sélectionnés et on les organisera sur cette dernière partie du festival étalée jusqu'au mois d'août.
Bon, finalement c'est bien, au lieu d'avoir un festival uniquement en janvier, on vous a toute l'année.
Exactement.
Je suis au max de mon positivisme.
Ouais, merci, pourvu que les salles ouvrent en tout cas.
C'est clair. Et puis dans les autres idées ou choses réjouissantes que vous proposez, on peut devenir la star de l'affiche de premier plan 33e édition. Vous invitez qui veut télécharger alors le fond habituel qu'on a bien identifié et on peut la réinventer, la réimaginer.
C'était un rendez-vous donné à nos publics pour qu'ils se rendent visibles en fait sur les réseaux sociaux. On leur propose de réinventer l'affiche puisque l'affiche du festival cette année est basée sur un photogramme de Golden 80s de Chantal Akerman où on voit un petit groupe de femmes un peu hurluberlues regarder de près la caméra. Et donc on invite les spectateurs à se remettre en scène. Et d'ailleurs, j'invite l'équipe de Radio G à répondre, à relever le défi, voir à ce que les autres émissions de Radio G puissent jouer le jeu. Voilà, c'était un clin d'œil qui peut se partager facilement sur nos réseaux sociaux et donc dans ce mode virtuel.
Ouais, et puis qui est amusant aussi.
Voilà, un petit clin d'œil ludique. Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres choses très importantes qu'on a oublié de signaler sur cet événement alors qu'il débute en ligne lundi, on sera le 25 janvier?
Ouais, je voulais juste peut-être rajouter une chose sur les séances, les 12 séances de la 25e heure. Mmh. Elles sont gratuites, mais elles ne sont ouvertes que à 400 personnes, comme dans une salle de cinéma. Il y a une jauge qui était le moyen de pouvoir demander l'accès au film aux ayants droit. Donc dépêchez-vous, toutes les modalités pour réserver seront en ligne en fin de semaine. Donc voilà, on compte sur vous, on vous attend et Arnaud Gourmelin et son équipe vous attendent pour les débats qu'il va animer à l'issue des films de long métrage avec les réalisateurs.
Ouais, et moi j'ajoute une chose, ce que tu dis Véronique, c'est que en gros, déjà je sais que c'est pas forcément ultra clair pour tout le public le fait qu'on soit sur plusieurs sites et tout ça, donc sur le site internet www.premierplan.org vous aurez toutes les informations un peu nécessaires et sur la partie, ce que tu dis Véronique, des réservations pour la partie compétition, elles seront ouvertes demain et elles seront ouvertes en tout cas dès demain pour les séances de lundi et mardi déjà. Et ensuite, on ouvrira en début de semaine les autres séances, voilà, de manière à ce que tout le monde puisse réserver, pas tout d'un coup. Voilà, pour que puisse être un peu partagé entre les publics.
Ouais.
Donc, rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas.
Ouais, donc on mettra toutes les infos en ligne sur le podcast de L'Oreille Curieuse. Sur le site de Radio G, effectivement, tout est sur premierplan.org. Et on a rendez-vous dès lundi. Alors, sur la Cinéthèque, pour les rétrospectives, avec un pass à 7€ pour accéder à tous les films des rétrospectives, si j'ai bien compris.
Alors, tous les films qu'on a choisis, c'est-à-dire une douzaine.
Ouais. Ce qui est beaucoup. Enfin, moi, je serais très satisfaite. et puis, découvrir la sélection, la compétition à partir de lundi, et juste pour une semaine, car c'est un festival, cette fois-ci grâce à la 25e heure.
Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud.
Merci.
Et merci beaucoup Véronique.
Et au plaisir de se retrouver dans les salles de cinéma. Radio G. 101.5.